Claude Askolovitch, la revue de presse, c'est avec vous. Eh bien, vous avez oublié de m'apporter une feuille ce matin.
On vous a pas apporté de feuille.
Non, donc je ne sais pas comment c'est un vous lancer.
Eh bien, on va la faire tout seul. Et je vais commencer par vous parler, c'est dans Nice Matin, d'abeilles qui ont squatté un scooter sur le site du journal niçois. Vous aurez même une vidéo où vous verrez ces milliers d'abeilles sur ce scooter dans une rue de Nice. Ça s'est passé hier et c'est une conséquence inattendue des mouvements sociaux. Ces fameux mouvements sociaux que Libération, le Télégramme voit faiblir quand le Figaro tonne contre les bloqueurs des facs. Eh bien, ils ont embêté les insectes. Hier, le bruit de la manifestation de Nice a dérouté un essaim qui cherchait un endroit pour refonder sa ruche. La reine apeurée s'est cachée dans le scooter et ses milliers d'ouvrières autour d'elle. Il a fallu des heures à un apiculteur pour exfiltrer l'essaim et rendre le scooter à son propriétaire qui voulait aller lui travailler. Voilà donc, Marc, comment les hommes perturbent la nature et parfois c'est moins innocent. La Croix fait sa une et son débat sur Cigéo. C'est le projet prométhéen de l'administration française d'enfouir d'eau déchets nucléaires à 500 mètres de profondeur à Bure, dans la Meuse. Les travaux vont s'étaler sur plus d'un siècle, mais ces déchets, nous dit La Croix, nous rappelle La Croix, resteront radioactifs parfois pendant 100 000 ans. Et une fois enfouis sous la couche d'argile, on ne pourra plus les atteindre. Le risque est de léguer un nouvel héritage empoisonné aux générations futures, dit le physicien Bernard Laponche. Comment concevoir une telle menace? Nous sommes vraiment loin des abeilles de Nice, mais pourtant ça existe, les abeilles, parce que c'est au présent que l'on souffre. À la une de la Tribune, journal de la Loire, les ruches ciblent des voleurs, car on vole des ruches en France. Et en une nuit, René Mounier, qui fait du miel d'acacia à la Tour en Jarez, a perdu 65 ruches, lui qui se bat déjà pour sauver ses abeilles du réchauffement climatique, des maladies et des pesticides. Les apiculteurs se sentent abandonnés, certains parlent de poser des pièges, lisent dans le journal, et c'est une musique familière, l'abandon et la colère qui naît. On appelle ça la dépossession, Marc, quand la brutalité du monde vous arrache ce qui est à vous.
Et la dépossession est la marque des journaux ce matin.
Et ce sont ces personnes qui souffrent de la thyroïde et qui ont vu un laboratoire changer d'un coup la formule de leur médicament, le fameux Levothyrox, et la nouvelle formule les rend malades. Mais en dépit du scandale, c'est la une du Parisien aujourd'hui en France, rien n'est réglé. Les patients sont forcés de trouver l'ancienne formule du médicament en Allemagne, en Belgique ou en Espagne. Rien n'est prévu pour eux. Dépossession encore, celle des supporters de football qui aiment leur club. Mais le football organisé veut-il de leur amour. L'Équipe ne met pas de vedette à sa une aujourd'hui, mais consacre 30 pages aux supporters, aux ultras, aux fans, aux porteurs de fumigènes. Et c'est un paysage d'une France qui attend le respect. C'est humain et politique. Quand par exemple les fans de Sochaux militent contre un propriétaire chinois qui laisse périr le club, certains ultras liges sont sur une ligne dure comme Sudrail. C'est dans L'Équipe. D'autres ressembleraient à la CFDT. Dépossession enfin des parieurs du PMU, dont le paisible bonheur est dévasté par des grands parieurs internationaux. Ceux-là ne mettent pas les pieds sur les champs de course, mais ils parient des sommes énormes, de loin, massivement, sur nos canassons qui galopent à Cagnes-sur-Mer ou Pornichet. Les cotes s'effondrent en pleine course. Et le magazine des Échos raconte tellement bien l'opposition entre notre petit monde de turfistes, où on lit Paris Turf ou Le Vénard, et ces deux surhommes australiens, David Walsh et Zichko Ranogajek, des surdoués d'une mémoire mathématique phénoménale qui ont écumé les casinos du monde entier avant de se lancer dans les paris hippiques robotisés. Ils ont essoré les courses australiennes avec leurs algorithmes. La Suède les a bannis, mais ils sont sur nous. Que sommes-nous face aux surhommes?
Dans la presse également ce matin, la violence d'Internet.
Et la laideur de quelques humains, eux aussi pourtant dépossédés, mais qui se vengent en haïssant sur la toile. C'est dans Society. Un photographe norvégien est allé photographier ce qu'on appelle communément les haters, ceux qui haïssent, ou les trolls. Ils répandent l'insulte sur Twitter, mais ils nous regardent dans le journal de toute leur misère. L'énorme Ashley Jones du pays de Galles, qui avait traité un jour la chanteuse Lady Gaga de, je cite, « grosse pute exhibo ». Le métallo anglais tatoué Robert Jackson, qui voulait pendre Tony Blair et qui tweetait aussi « fuck l'islam », traduction non nécessaire. Ou bien un autre tatoué américain, Nick Hines, qui menaçait de faire la guerre civile si, je cite encore, cette salope de Hillary remportait l'élection. Dans Marianne, la philosophe Marilyn Maizeau a disséqué méticuleusement la furie antisémite qui, sur la toile a submergé un adolescent il y a quelques semaines. Le jeune homme avait posté une vidéo contre le racisme. « Ta gueule, putain de puceau de merde, tu es un petit youtre plein aux as !» a répondu Internet. Ainsi autorise le web où l'on ne voit pas ce que l'on humilie. Sur le site The Conversation, qui en français, je précise en français, amène l'université sur le terrain du journalisme, on analyse l'ensauvagement du web et on y lit cette phrase du philosophe Lévinas. « Le visage est ce qu'on ne peut tuer. Dès lors qu'autrui me regarde, j'en suis responsable, sa responsabilité m'incombe. Et si les trolls haïssent à l'aveugle ceux qu'ils ne voient pas, je ne peux, lecteur de Society, haïr ces trolls que Society m'a montré. » Il y a, dans Society encore, achetez-le ce week-end, de très très beaux visages, ceux d'Emmanuel Momo et de ses comparses dans un conte de fées africain. Momo en Sierra Leone qui a trouvé en mars 2017 un diamant de 709 carats qui fut vendu pour 6 millions de dollars à un joaillier britannique. Et l'odyssée de ce diamant vous fera, je vous le promets, la fin de semaine. J'en termine maintenant avec un autre beau visage. Il était massif et tendre et surmonté d'une chevelure bouclée. Ce fut celui d'un Français qui s'appelait André Roussimoff, de Russie en Seine-et-Marne, qui fut mondialement célèbre sous le nom de André le Géant, André the Giant, personnage du catch américain, après avoir été chez nous le géant ferré. 2 m 11, 146 kg, chaussures 58, c'est plus du catch, c'est de l'escalade. Ses poumonnets, les speakers, il est raconté, André, dans l'équipe encore, mais sur le web, dans un grand format qui s'appelle l'équipe Explore, où les mots truculents et les images se nourrissent et s'enrichissent. Et voyez-vous, on aime aussi sur le web.
Merci, c'était la revue de presse de Claude Askolovitch. Merci Claude.